franceinter.fr.
Et c'est Yves Decan qui présente les informations. Bonjour.
Bonjour. Le cas Macron 2017, le terrorisme, le Brexit, le président de la République sur tous les fronts pour son interview du 14 juillet dans un instant. Ce matin, il a présidé le défilé militaire consacré à l'engagement de tous contre le terrorisme avec en invités étrangers notamment les Maoris de Nouvelle-Zélande. Vers le Brexit, mais tout doucement, le nouveau gouvernement britannique composé par Theresa May avec notamment Boris Johnson au Foreign Office donne le ton des prochains mois. Le message des électeurs sera respecté, mais pas dans l'urgence. Il y a urgence, en revanche, sur la maladie de Lyme. Des médecins dénoncent les faiblesses du dépistage et des traitements de la maladie transmise par les tiques, et qui peut être très grave. Invité de ce journal, Agnès Gobert-Picat de l'association France Lyme. Dans ce journal également, la mort d'un pompier de Perpignan en intervention sur un incendie. Trois de ses collègues sont gravement blessés. Des feux d'artifice reportés à Marseille et sur toute la côte pour cause de Mistral. Le Tour de France à l'assaut du Ventoux, qui lui aussi a été raccourci pour cause de vent. Enfin, l'étape a été raccourcie. Bonjour Élodie Callac.
Bonjour.
Donc beaucoup de vent dans le sud-est, ça continue.
Et effectivement, beaucoup de vent dans le sud-est. Alors c'est ensoleillé, mais très agité. Des rafales jusqu'à 80-90 km à l'heure pour la Tramontane, pour le Mistral, en altitude, et puis aussi sur les Caps Corses. On aura des orages cet après-midi sur le sud des Alpes. Ce temps glissera vers la Corse ce soir. Et puis on garde un temps bien instable entre le nord-est, le massif central, Rhône-Alpes, des averses parfois orageuses, de la neige sur le nord des Alpes à partir de 2000 mètres. Du Nord-Pas-de-Calais vers la Normandie, la région parisienne, ça s'arrange. On retrouve des éclaircies cet après-midi. Et puis de la Bretagne au sud-ouest, là, le soleil a l'avantage, surtout sur les plages. Les ondées sont bien rares.
Et du côté des températures?
Alors, c'est toujours bien frais. 17 degrés à Cherbourg, 20 degrés à Lille, Strasbourg, Grenoble, 21 du côté de Paris, 23 degrés à Toulouse, 27 à Montpellier, 28 à Bastia. Et puis demain, ce sera plus sec, de très belles éclaircies, des températures qui vont commencer à monter avec 23 degrés à Rennes, Paris, Lyon et 30 à Montpellier.
Le dernier oral avant l'été pour le chef de l'État auquel les Français n'ont pas donné la moyenne cette année. Le traditionnel interview du 14 juillet dans quelques instants sera aussi le dernier du quinquennat et les sujets qu'il aura à traiter ne manquent pas. Le terrorisme, le Brexit, 2017 et Macron. Frédéric Mettezo, c'est sur ce dernier point que l'attente est peut-être la plus forte d'un point de vue politique. En tout cas, comment le président peut-il recadrer son ministre et réaffirmer son autorité s'il souhaite le faire?
Alors l'acte d'autorité le plus fort, ce serait de le faire partir comme Arnaud Montebourg en août 2014, après, vous vous souvenez, la cuvée du redressement. Mais là, il n'en est pas question. François Hollande couve Emmanuel Macron, c'est l'un de ses protégés, secrétaire général adjoint de l'Élysée pendant 2 ans, puis ministre à Bercy. Et puis le calcul politique est simple, limoger Macron, c'est tout simplement lui faire le cadeau dont il rêve, le transformer en martyr victime de la vieille politique et du système qu'il a fustigé avant-hier à la Mutualité. Alors à l'Élysée, l'entourage de François Hollande explique qu'il va apaiser fermement. Vous apprécierez le concept et la synthèse poussée à l'extrême. Apaiser fermement. On est loin de Jacques Chirac, cinglant Nicolas Sarkozy en 2004. Je décide, il exécute. Donc, comme le dit la chanson, Emmanuel Macron n'est pas là pour se faire engueuler. Il est là pour voir le défilé. Alors que l'euro est passé, que l'adoption définitive de la loi travail approche et que les dates de la primaire du PS sont connues, François Hollande voudra entrer de plein pied dans la pré-campagne. Sa base est suffisamment étroite aujourd'hui pour ne pas la réduire encore plus en se séparant d'Emmanuel Macron.
Le président de la République, dont on attend aussi qu'il évoque le Brexit et ses conséquences sur la croissance, la loi travail également, et peut-être quelques annonces, Delphine Simon.
Oui, François Hollande, à la recherche de symboles pour la gauche, devrait notamment remettre sur la table une idée ancienne, le revenu universel, une allocation sans condition de ressources, un filet de protection de base, identique pour tous. Après 4 mois d'action et de manifestations, parfois émaillées de violence, le chef de l'État va également défendre la loi travail. On l'a dit, l'adoption définitive du texte est prévue mercredi prochain. Il devrait surtout tenter de convaincre que ça va mieux, la reprise est là. Même si la fameuse inversion de la courbe se fait encore attendre, le chômage est reparti à la hausse au mois de mai après 2 mois de baisse. Enfin, François Hollande est très attendu sur le Brexit. À 3 jours d'une tournée européenne, il devrait s'employer à rassurer sur les conséquences économiques du vote britannique, alors que le FMI vient tout juste de revoir à la baisse sa prévision de croissance pour la France finances l'an prochain. Cette incertitude peut-elle remettre en cause certaines dépenses ? En 2017, année présidentielle, François Hollande promet en effet une nouvelle baisse d'impôts pour les classes moyennes, à condition, dit-il, que la croissance soit bien au rendez-vous.
Alors avant cette interview qui devrait durer une demi-heure sur TF1 et France 2, le chef de l'État était allé bien sûr assister au défilé militaire après avoir procédé à la revue des troupes. 3200 soldats, 55 avions, des hélicoptères, des véhicules. L'édition 2016 du défilé voulait rendre hommage à toutes les formes d'engagement liées aux menaces terroristes sur les fronts extérieurs et intérieurs, Mathilde Dehimy.
Oui, les unités traditionnelles de combat, les chars, les hélicoptères, les radars Cobra étaient bien évidemment mis à l'honneur, tout comme les renseignements, les douaniers et l'administration pénitentiaire, nouveau venu cette année. Aline est élève surveillante de prison, elle a donc dû apprendre à marcher au pas.
On faisait à peu près environ 10 km par jour de marche au pas et toutes les matinées de 8h à midi. Je commence tout juste, mais je sais que les collègues sur le terrain ont besoin plus de reconnaissance.
Il y a besoin aussi de recruter dans l'armée des jeunes qui s'engageront le plus longtemps possible, espère le capitaine de frégate François-Xavier Leboucher, qui dirige l'école des Mousses à Brest. 200 jeunes de 16 à 18 ans.
On leur donne un projet à court terme, c'est-à-dire qu'ils savent quand ils rentrent à l'école des Mousses, ils savent qu'au mois d'août de l'année d'après, ils font partie d'un équipage, ils ont signé un contrat de 4 ans avec la marine et que c'est parti pour eux dans la vie, ils sont autonomes financièrement et ça pour eux c'est très fort.
Parfois, les vocations naissent ici même, sur les Champs-Élysées. Agnès est venue voir sa fille qui défile pour sa première année à l'école des pompiers de l'armée de l'air.
On avait été voir le défilé il y a quelques années. On avait été sur les Invalides où il y a tous les véhicules qui sont garés. Elle avait été particulièrement attirée par les pompiers déjà à l'époque. Et c'était son rêve d'adolescente, donc voilà, qui se réalise.
Clin d'œil de ce défilé, Yves, la patrouille de France est passée au-dessus de l'Arc de Triomphe en formation Tour Eiffel pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024.
Avec en invité étranger cette année la Nouvelle-Zélande et l'Australie, des Maoris en costume traditionnel qui descendent les Champs-Élysées, un spectacle tout à fait inédit.
Oui, il n'y avait pas que les Maoris. Hein. 133 militaires de la Royal Australian Navy, de l'Army et de l'Air Force sont d'abord défilés, suivis par le détachement interarmé néo-zélandais. C'est effectivement traditionnel. Hein. Chaque année, des régiments étrangers qui sont invités à participer au défilé. Les unités néo-zélandaises et australiennes représentées ce matin se sont illustrées lors de la Première Guerre mondiale et plus particulièrement lors de la bataille de la Somme il y a 100 ans. Mais effectivement, ce que le public retiendra, ce que vous avez retenu aussi, Yves, ce sont les 8 guerriers Maoris. Ils ont ouvert ce défilé en très courte tenue traditionnelle, pieds nus, juste un pagne dans le froid parisien. Ils ont marché au pas, sauf deux d'entre eux qui se sont détachés, ils sont sortis du rang et ils se sont mis à courir sur les côtés avec leur lance, ce qui a bien sûr ravi le public.
Voilà, il manquait plus que le AK. Mathilde Dehimy sur les Champs-Élysées. Autre parade à Bagdad où les troupes ont aussi défilé ce matin pour célébrer les victoires contre le groupe État islamique au moment même où la mort d'Omar le Tchétchène était annoncée. Omar al-Chichni, de son vrai nom, l'un des commandants les plus en vue du groupe État islamique, reconnaissable à sa longue barbe rousse. Il aurait trouvé la mort dans les combats de Charkat près de Mossoul. C'est en tout cas ce que rapporte une agence d'information liée aux djihadistes. Sachant que la mort de celui qu'on présente comme le ministre de la Défense de l'État islamique avait déjà été annoncé à plusieurs reprises, Luc Lemonnier.
Ah oui, Omar le Tchétchène, c'était le numéro 3 sur la liste américaine des hommes à abattre après le chef, Abou Bakr al-Baghdadi, dont la tête est mise à prix 10 millions de dollars, et juste après, Abdelrahman al-Kadouli, 7 millions de primes, éliminé au mois de mars et considéré comme le financier du groupe. Pour la tête d'Abou Omar el-Tchétchéni, né en Géorgie de père chrétien et de mère musulmane, les Américains offraient 5 millions de dollars. Très gros poisson donc, en quelque sorte le général en chef de Daesh, solide expérience du combat pour avoir été acteur de la rébellion en Tchétchénie, avant de rejoindre l'armée géorgienne en 2006 contre les forces russes, puis de passer à la clandestinité et enfin de gagner la Syrie et de prêter allégeance au patron al-Baghdadi en 2012. Les Américains l'avaient déjà annoncé mort, victime d'une frappe aérienne en Syrie, mais c'est au sud de Mossoul, en Irak, que l'organe de propagande du groupe djihadiste localise et officialise aujourd'hui son élimination. Un coup dur de plus pour Daesh, dont le territoire se rétrécit en Syrie, en Irak, en Libye, un quart de moins, dont les revenus financiers fondent, les combattants sont moins payés et les effectifs de kamikazes réservés aux opérations les plus spectaculaires et dont les encadrants font l'objet d'attaques ciblées. Le porte-parole militaire de la coalition estime qu'en une année, plus de 40 hauts responsables du mouvement ont été neutralisés.
La journaliste américaine Mary Colvin est responsable de sa propre mort. Petite phrase remarquée de Bachar el-Assad sur la chaîne américaine NBC. La journaliste avait été tuée dans un bombardement imputé au régime syrien en 2012. Elle était entrée illégalement et elle avait travaillé avec les terroristes, répond Assad. À Londres, vers le Brexit, mais en douceur. Il n'y aura pas de budget d'urgence, a précisé ce matin le nouveau ministre des Finances, Philippe Hammond, qui veut se donner l'été pour étudier la situation. Pas question, pour l'instant, par conséquent, d'annoncer de nouvelles mesures d'austérité. La vraie surprise du nouveau gouvernement britannique, composé par Theresa May, c'est la nomination de Boris Johnson, l'ex-maire de Londres, chef de file des Brexiteurs, nommé au Foreign Office, les Affaires étrangères. Exemple aussi avec David Davis, ex-secrétaire d'État aux Affaires européennes, nommé à la tête d'un ministère chargé du Brexit. Bref, c'est un message clair qui est envoyé aux électeurs. Annabelle Grelier, vous êtes à Londres. Le message des électeurs sera respecté, autrement dit.
Oui, pour le moment, vous l'avez dit, le nouveau Premier ministre, Theresa May, a essentiellement nommé des Brexiteurs ou des eurosceptiques au poste clé de son gouvernement. À commencer par le ministre des Finances, son numéro 2, Philippe Hammond, comme elle, il était officiellement pour le maintien, mais plus par loyauté envers David Cameron, dont il était le ministre des Affaires étrangères, que par réelle conviction. Pour lui succéder à ce poste, en revanche, là, c'est plus surprenant, même aux yeux des Britanniques, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, connu pour ses excentricités et ses dérapages, accède au poste de chef de la diplomatie, presque un contre-emploi, estime la plupart des éditorialistes britanniques, mais il est aussi le symbole du Brexit. Un Brexit qui, toutefois, devrait être négocié par David Davis, au style plus sobre, mais tout aussi déterminé. C'est donc un signal fort que Theresa May envoie à la fois à son parti, qui s'est clairement déchiré pendant la campagne référendaire, à son pays. Elle confirme son engagement à respecter le résultat des urnes, et enfin à l'Europe également. Avec des Brexiteurs, les négociations s'annoncent âpres, mais n'a-t-elle pas promis qu'elle obtiendrait le meilleur deal pour le Royaume-Uni, Yves ?
Et oui, ce qui paraît clair aussi, c'est qu'on va se donner du temps avant de changer quoi que ce soit.
Oui, David Davis a d'ores et déjà prévenu que le Royaume-Uni prendrait son temps avant de chercher l'article 50 du traité de Lisbonne, qui sonne le début d'une période de 2 années pour négocier le départ. Il ne fait que suivre la ligne de Theresa May, qui dès le début a annoncé que rien ne serait décidé avant la fin de l'année. Le chancelier de l'échiquier, ce matin, sur la BBC, ne disait pas autre chose. On étudie cet été, on réfléchit cet automne et on avisera en fin d'année. Nous avons besoin de temps, aurait dit Theresa May lors de son premier coup de fil à Angela Merkel hier soir. Londres, Annabelle Grelier, France Inter.
Commentaire ce matin de Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, à propos de son nouveau collègue Boris Johnson. Il a beaucoup menti aux Britanniques, dit-il, et maintenant c'est lui qui est au pied du mur. Il y a urgence sur la maladie de Lyme, maladie transmise par les tiques et qui serait sous-diagnostiquée et mal soignée en France. C'est le cri d'alarme que lance une centaine de médecins dans une pétition de l'OPS cette semaine. Des médecins qui jugent insuffisants les dépistages organisés par les autorités de la santé publique. La maladie de Lyme, c'est entre 12 et 15 000 cas officiellement déclarés. Maladie qui se traite à condition d'être diagnostiquée très tôt, Véronique Julien.
Oui, cette maladie est transmise par des tiques eux-mêmes infectés par le sang d'animaux sauvages et c'est en période chaude, printemps-été, qu'on court le plus de risques, quand on se promène en forêt en particulier, ou qu'on fait du camping. En France, toutes les régions humides et boisées sont donc concernées, mais la plupart des cas s'observent en Alsace, en Auvergne, dans le Limousin et en Rhône-Alpes. Alors combien de cas exactement ? En France, on parle de 15 à 30 000 cas chaque année. C'est sans doute sous-estimé, puisqu'en Allemagne, juste à côté de chez nous, on a 10 fois plus de cas officiellement détectés. La maladie prise très tôt peut se guérir. Si on prend un antibiotique, dans les 3 semaines qui suivent la morsure, on élimine l'infection. Le problème, c'est d'identifier qu'on est bien face à une morsure de tic. Si on attend, la maladie va devenir chronique. Elle peut se déclarer des mois, des années après la morsure, sous plusieurs formes et avec parfois des complications gravissimes. Des douleurs musculaires, articulaires, une grande fatigue, des paralysies et même des atteintes neurologiques et mentales. Problème, la maladie n'est pas reconnue en France comme une maladie chronique. Autrement dit, le patient se débrouille. débrouille comme il peut. Très récemment, au mois de juin, le ministère de la Santé a quand même promis un plan d'action sur la maladie pour le mois de septembre.
Invitée de ce journal, Agnès Gobert-Picale, une des responsables de l'association France Lyme. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez vous-même contracté la maladie il y a quelques années. Comment ça va aujourd'hui?
Alors, ça va plutôt bien. Les 9 dixièmes de mon temps, je suis en pleine forme avec des traitements naturels à base de plantes et des vitamines. Et de temps en temps, j'ai quand même besoin d'une cure d'entretien par antibiotiques pour traiter quelques rechutes.
Alors, est-ce que vous considérez avoir été mal diagnostiqué au tout début de la maladie ou d'avoir été mal soigné ensuite?
Alors, oui, effectivement, j'ai été mal diagnostiquée au tout début de ma maladie parce que je ne suis pas allée consulter de médecin quand j'ai vu la rougeur typique de la maladie de Lyme, post-morsure de tique, donc parce que je n'étais pas au courant. Donc, il y a une dizaine d'années, il y avait tellement peu d'informations que le grand public était absolument pas au courant. Donc, moi-même, je ne suis pas allée consulter. Ensuite, quand j'ai développé les premiers symptômes au bout d'un mois, j'ai eu une grosse arthrite au genou. J'ai cru que je m'étais blessée dans ma salle de sport. Mais en fait, j'avais une arthrite au genou plus des tendinites qui sautaient d'une jambe à l'autre brutalement. Ça aurait dû un peu plus inquiéter les médecins. Et voilà, au final, j'ai pris beaucoup de cortisone qui, en fait, supprime les défenses immunitaires et a fait flamber complètement la maladie. Et c'est là que j'ai fini aux urgences avec tout un tas de symptômes. Et que un externe des urgences a évoqué cette maladie. Donc j'ai pas eu d'errance diagnostique pendant des mois et des mois, mais 4-5 mois ont suffi pour disséminer la maladie et ça équivalait à plusieurs années d'errance diagnostique parce que la cortisone a complètement fait flamber la maladie.
Alors, à l'origine de la pétition dans l'Obs, le professeur Perron, chef du service infectiologie à l'hôpital de Garches, parle de patients renvoyés de service en service, souvent soignés pour des maladies qui ne les concernent pas, de patients qui vont même parfois jusqu'au suicide. Il dénonce un vrai scandale sanitaire.
Oui. Bah, c'est tout à fait ça. Hein. On a énormément dans l'association. On est contacté tous les jours par des dizaines, une centaine de malades par semaine qui sont complètement laissés pour compte et qui sont sous antidépresseurs, sous antalgiques très forts, anti-inflammatoires, etc., qui ne font que aggraver leurs symptômes au final. Et alors qu'ils ont eu une piqûre de tique, un traitement de courte durée en post-morsure qui n'a pas suffi et à qui on dit que ce n'est pas la boréliose de Lyme mais c'est forcément autre chose. Sauf que autre chose, personne n'est capable de dire ce que c'est. Ça peut être syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, etc.
Véronique Julien. C'est
fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de protocole médical. Chacun fait un peu comme... et il n'y a pas de test aussi qu'on peut faire au bout de 2 ans pour savoir si on est porteur de la bactérie.
Les tests sont pas fiables du tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Moi-même, j'ai eu des tests positifs, puis négatifs, puis repositifs. Donc, ça dépend complètement de à quel moment vous faites la sérologie. Ces tests-là sont peu sensibles et peu spécifiques. Donc, les anticorps, on les trouve très rarement. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Et donc, du coup, forcément, le médecin lambda, face à une sérologie négative, ne veut pas aller plus loin dans l'investigation. Alors qu'il faudrait pour ces patients-là un test d'épreuve aux antibiotiques, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois d'antibiotiques, et voir comment se porte le malade. Parce que quand c'est vraiment la maladie de Lyme, je peux vous dire qu'on a tout de suite des résultats.
Agnès Gobert-Picale, une des responsables de l'association France Lyme. Merci beaucoup en rappelant quelques mesures de précaution à prendre. Évidente, ne pas se promener jambes nues, par exemple, dans les hautes herbes. Merci beaucoup. Dans les Pyrénées-Orientales, près du Barcarès, une intervention des pompiers qui finit mal. Un pompier professionnel de Perpignan a trouvé la mort dans l'embardée du fourgon qu'il conduisait. Les 3 volontaires qui l'accompagnaient ont été hospitalisés dans un état grave. Leur véhicule, pour une raison qui reste à déterminer, a fait plusieurs tonneaux. Leur petite commune d'origine, Pézilla-la-Rivière, était ce matin sous le choc. Anne Pinxon-Ducel.
C'est une foule silencieuse qui a défilé ce matin entre la mairie et le monument aux morts. D'habitude, à Pézilla-la-Rivière, c'est la fête dès le 13 juillet. D'ailleurs, hier, Bruno, Arnaud, Mathieu et Guilhem étaient sur le stand des pompiers dans le village. Ils étaient avec leurs collègues, leurs amis, et puis ils ont été appelés pour un incendie. Ce sont tous des enfants du village, comme le dit le maire. D'ailleurs, ils ont leur maman ou leur belle-sœur dans le conseil municipal. Depuis l'accident, toutes les festivités ont bien sûr été annulées. Les drapeaux sont en berne ce matin, mais les pompiers ont quand même même tenu à maintenir le défilé. Ils ont besoin de soutien. Ils voulaient aussi rendre hommage à Bruno, leur collègue qui est mort en faisant retentir la sirène dans le cimetière. Un hommage d'autant plus douloureux puisqu'aujourd'hui, Bruno aurait dû être décoré par la médaille du courage du village pour avoir sauvé quelqu'un de la noyade. France Bleu Roussillon, Anne Pinxon du Sel pour France Inter.
Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a salué la mémoire du pompier décédé qui avait fait comme 250 000 de nos concitoyens le choix de s'engager pour protéger et porter secours aux autres. Ce matin, l'état de santé des trois pompiers blessés reste grave mais stable. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Les pompiers de Perpignan intervenaient donc sur un violent incendie qui menaçait quelques campings. Incendie finalement maîtrisé. Comme l'a été aussi près de Marseille le feu de Châteauneuf-les-Martigues qui reste sous surveillance en raison du mistral violent qui sévit partout sur la côte. Mistral à cause duquel ce 14 juillet se fêtera sans feu d'artifice sur le Vieux-Port, comme dans beaucoup de communes. Tous les spectacles pyrotechniques sont reportés à demain soir, voire samedi comme à Toulon. Olivier Martoc.
Les 460 pompiers prépositionnés dans les zones à risque n'ont pu empêcher cette nuit le premier incendie de l'été dans les Bouches-du-Rhône. Il a été contenu après 10 heures de lutte acharnée. Dans ces conditions météo extrêmes, les 1000 hommes en alerte maximum aujourd'hui ne suffiront pas si les communes se mettent à tirer des feux d'artifice. Le colonel Grégory Allione, le patron du 10-13, demande donc aux maires de faire preuve de responsabilité.
Le sud de la France a été marqué en 1989 par un feu d'artifice qui avait malheureusement engendré un sinistre d'importance. Je pense qu'on a des maires responsables qui conseillent à la population d'avoir des attitudes responsables dans ces moments-là. Et je sais qu'on peut leur faire confiance pour être justement en responsabilité ce soir.
Message reçu dans la plupart des mairies, même si le feu d'artifice du 14 juillet est un des temps forts de la vie locale. Roland Mourenne, le maire de Châteauneuf-les-Martigues, avait pris sa décision avant même le feu de cette nuit sur sa commune.
Nous suivons cette consigne parce qu'il y a trop de risques d'incendie. Si on rajoute au risque en tirant un feu d'artifice, c'est pas normal. Mais nous allons quand même faire la fête avec un orchestre qui va mettre l'ambiance.
Marseille, où le risque est pourtant moindre car le feu d'artifice est tiré sur le Vieux-Port, a annoncé son report à demain. La mairie a pris conscience en fin de matinée que les marins-pompiers, mobilisés pour cet événement, pourraient être utiles ailleurs. Marseille, Corinne Blotin, Olivier Martoc, France Inter.
Et hier, c'est dans le Var que les feux d'artifice avaient été annulés. Sur la route du Tour, le Ventoux à l'horizon, 12e étape, Montpellier-Chalais-Reynard. L'ascension du Ventoux a été raccourcie pour cause de vent, on va y revenir. D'abord, le point sur la course, les coureurs sont partis depuis un peu plus d'une heure. Xavier Monferrand, qu'a-t-il à signaler ?
Eh bien écoutez Yves, 13 coureurs sont en tête depuis le début de cette étape, dont 3 Français, puisqu'on retrouve parmi eux Brian Coquard et Sylvain Chavanel de l'équipe Direct Energy, mais également Cyril Lemoine pour l'équipe Cofidis. Ces 13 hommes en tête, ils ont un peu plus de 4 minutes, 4 minutes 25 d'avance sur 5 coureurs poursuivants, dont le Français Cyril Gauthier de l'équipe AG2R, des coureurs échappés que le peloton a laissé filer puisque le peloton du maillot jaune avec les Sky qui roule devant est à 12 minutes des échappées du jour. Donc on va voir cette longue échappée peut-être jusqu'au pied du Ventoux. Après Yves, ce sera une autre histoire.
Alors on l'a dit, Xavier, le Ventoux ne sera pas escaladé donc jusqu'au sommet. Les 6 derniers kilomètres ont été retirés du programme, ce qui peut changer beaucoup de choses, même si l'ascension reste extrêmement difficile, bien sûr.
Oui, effectivement. Alors, on s'attend au duel entre Chris Froome, le maillot jaune, et son principal adversaire, le Colombien Nairo Quintana. Ce duel, il devrait quand même avoir lieu. Parce que c'est vrai qu'on a tronqué la partie mythique, la partie lunaire du Mont Ventoux, du Mont Chauve. C'est pour cela qu'on le surnomme le Mont Chauve, cette partie lunaire qui sera donc enlevée, et on va s'arrêter donc 6 kilomètres avant au Chalet Reynard, c'est-à-dire dans la partie boisée, mais c'est la partie la plus raide pour les coureurs, donc la plus compliquée. Donc, eh bien, c'est un terrain idéal pour s'expliquer entre favoris.
Xavier Monferrand sur la moto de Laurent Groux, arrivée prévue un peu avant 17h. 2 petits bleus chez les Bleus pour la Coupe Davis de tennis. Les quarts de finale qui se joueront à partir de demain en République tchèque. De nouveau font leur entrée dans l'équipe de France. Lucas Pouille, qui vient de réussir un très bon Wimbledon. Et Pierre-Hugues Herbert, qui, comme on ne le sait pas, est l'actuel numéro 1 mondial du double. Fabrice Abgral.
Quoi qu'il qu'il arrive, Luc Capouille et Pierre Hugerbert ne sont pas prêts d'oublier ce quart de finale. Le nordiste et l'alsacien fêteront ce week-end leur première sélection en Coupe Davis. Luc Capouille sera aligné dès demain en simple pour épauler le numéro 1 français, Joe Wilfried Tsonga. Quant à Pierre Hugerbert, il jouera samedi le double aux côtés de Nicolas Mahut, son partenaire habituel, avec lequel il a déjà remporté cette année 5 titres, dont Wimbledon samedi dernier, et avec lequel, depuis ce sacre, il partage la place de numéro 1 mondial de la discipline. Si la titularisation d'Herbert était attendue, celle de Luc Capouille l'était un petit peu moins. Yannick Noah l'a préféré à Gilles Simon, plus expérimenté certes, mais à court de forme en ce moment. Ce qui n'est pas du tout le cas du jeune et très prometteur Luc Capouille, 22 ans, quart de finaliste à Wimbledon et qui en 5 mois est passé de la 91e à la 21e place mondiale. Depuis son retour au poste de capitaine, Yannick Noah a toujours dit qu'il choisirait ses 4 joueurs titulaires en fonction de la forme du moment. Du coup, à ce titre, la sélection est finalement sans surprise. Trinec, Fabrice Abgral, France Inter.
Voilà, République Tchèque, France en quart de finale de la Coupe Davis à partir de demain. La France qui bondit de 10 rangs au classement de la FIFA, la voilà maintenant 7e. La France qui évidemment bénéficie de sa place en finale de l'Euro 2016. L'Argentine toujours première, la Belgique toujours 2e. L'Empereur de nouveau dans ses meubles, les pièces du mobilier de Longwood House qui fut sa dernière demeure à Sainte-Hélène avant sa toute dernière aux Invalides. Ces meubles soigneusement restaurés pendant 4 ans sont exposés pour la première fois en France au Musée des Invalides, justement. 240 œuvres, objets et documents qui témoignent des années d'exil de l'empereur déchu. Une visite signée Louis-Valentin Lopez.
Un lit de camp élimé ou encore un uniforme de général, près de 240 œuvres et objets qui retracent le quotidien de Napoléon à Sainte-Hélène. Sur cette table de billard, l'empereur ne jouait pas, non, comme l'explique Michel Dancoine-Martineau, directeur des domaines nationaux de Sainte-Hélène.
Il s'en servait en fait pour étaler ses cartes, se servir des queues pour éviter que les cartes s'enroulent, utiliser les boules pour bien stabiliser les coins des cartes.
Un Napoléon qui au départ donc avait encore espoir de revenir sur l'échiquier politique, jusqu'à ce qu'on l'informe en octobre 1818 que son exil est irrévocable. La deuxième partie de l'exposition montre comment Napoléon se forge dès lors une image de martyr. Il troque son uniforme pour ce qui ressemble à une robe de chambre.
Une redingote en toile de jute, il reste chez lui. C'est le martyr qui commence.
Si Napoléon meurt presque seul en 1821, les visiteurs viennent aujourd'hui nombreux pour admirer ses reliques. Mais alors pourquoi cet engouement 200 ans après pour la figure de l'ex-empereur? Michel Dancoine-Martineau croit avoir la réponse.
Ce côté leader, il nous faut quelqu'un qui ait la capacité de prendre des décisions.
Pour venir s'immerger dans les dernières années de Napoléon au musée de l'armée, les curieux ont jusqu'au 24 juillet.
Voilà, un leader capable de prendre des décisions, justement ce dont le chef de l'État essaie de convaincre les Français, des décisions et de l'autorité, mise à mal, une autorité mise à mal par son ministre de l'économie, auquel il vient d'adresser Cyril Graziani, quelques règles, quelques rappels aux règles.
Quelques petites remontrances. On nous avait dit à l'Élysée qu'il devait apaiser fermement. Effectivement, François Hollande est rentré dans le vif du sujet puisque d'emblée il a été interrogé sur la crise gouvernementale, sur l'émancipation d'Emmanuel Macron. C'est pas le plus important sujet à traiter, a d'abord répondu François Hollande, avant d'en dire un petit peu plus.
Emmanuel Macron, il m'accompagne depuis 2012 comme conseiller puis comme ministre de l'économie. Il a mené des réformes, il en mène encore. Il a des idées, il veut rencontrer les citoyens. Et là-dessus, c'est utile. Il faut toujours aller à la rencontre des autres. Toujours proposer des idées nouvelles. Ça, mais il y a des règles. Il y a des règles dans un gouvernement. La première règle, c'est la solidarité. C'est l'esprit d'équipe. C'est de défendre le bilan. C'est d'être à plein temps dans sa tâche. Et donc, c'est une règle qu'il doit respecter. Puis il y en a une deuxième. Dans un gouvernement, il n'y a pas de démarche personnelle, encore moins présidentielle. Il y a... tout simplement servir, et servir jusqu'au bout. C'est une belle mission d'être au gouvernement de la France. C'est même la plus grande des missions pour un responsable, quel que soit son parcours.
Mais vous lui avez déjà lancé un avertissement, et il ne vous a pas écouté.
Ces deux règles, ces règles essentielles, sont celles de la composition d'un gouvernement. Je n'en dirai pas plus. Respecter ces règles, c'est rester au gouvernement. Ne pas les respecter, c'est ne pas y rester.
Mais non, je n'en dirai pas plus. Ça signifie un léger agacement de François Hollande. Autrement, sur un autre domaine, l'économie, est-ce que ça va mieux? La question lui a été posée. Il a dit oui, ça va mieux en France, mais ça peut se dégrader si nous ne faisons rien. Et François Hollande vient d'annoncer à l'instant également une baisse du chômage à la fin de l'année.
Et on en reparle tout à l'heure à 14h. Merci.